Amen, amen. Amen, amen. Nous arrivons au bon moment où nous allons écouter la parole du Seigneur. Je vais inviter les prédicateurs du jour. Il va se présenter. Donc, sous nos acclamations, nous accueillons l'homme de Dieu.
Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Waouh, est-ce qu'on peut s'élever juste pour la lecture de la parole et après on va prier. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 10 et nous allons lire du premier au quatrième verset. La Bible nous dit « Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain dit bataillon italien. Cet homme était pieux avec toute sa famille. Il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. » Soulignez, priait Dieu régulièrement. Verset 3. Un après-midi vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit, « Dieu a prêté attention à tes prières. » Soulignez, « Dieu a prêté attention à tes prières. » Et à l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas, parole du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour les moments magnifiques que nous sommes en train de passer en ta présence. Merci Seigneur, parce que maintenant, encore une fois, tu veux nous parler. Et nous croyons, Seigneur, qu'ici et maintenant, tu vas nous toucher. C'est notre prière encore une fois cet après-midi. C'est pourquoi, Père, je prie que tu puisses encore une fois te révéler à nous et nous aider à te connaître plus, mais aussi à faire des prières que toi, auxquelles tu tires attention et que tu exauces dans notre vie. Nous te les prions dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Ndabo. Je sers au sein de la jeunesse de cette paroisse, dans l'aumônerie de la jeunesse de cette paroisse, mais je sers aussi dans beaucoup de capacités, notamment au culte anglophone et partout où le Seigneur m'appelle à servir. Amen. Combien d'entre vous veulent faire des prières qui attirent l'attention de Dieu? Nous voulons tous faire des prières qui attirent l'attention du ciel, des prières comme celle de Corneille où l'ange de Dieu vient vers lui et lui dit « Dieu a prêté attention à tes prières ». En tout cas, c'est ça ma prière pour aujourd'hui. C'est ça même quand je suis en train de voir combien nous sommes dans cette atmosphère, dans ce désir de prier et d'élever nos voix vers Dieu. Je me suis en train de me dire, en tout cas, oui, c'est bien de prier, mais je vais prier pour que le ciel fasse attention à mes prières. C'est bien de prier, mais c'est bien aussi de prier pour que le ciel exauce nos prières. Amen. Nous voulons prier pour être exaucés. Et c'est ça le thème d'aujourd'hui, prier pour être exaucés. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais nous voulons prier pour être exaucés. Nous voulons faire des prières auxquelles le ciel va faire quoi ? Va faire attention. Amen. Et il y a des secrets, il y a des choses derrière ce genre de prières que j'aimerais que la parole du Seigneur puisse nous révéler encore une fois cet après-midi. Amen. Nous voulons faire des prières auxquelles Dieu tire attention. Et comme nous le savons tous, la prière est d'une grande nécessité dans la vie des chrétiens. Il y a une image que j'ai demandé aux médias de nous projeter cet après-midi. C'est l'image des motards. Je sais que beaucoup d'entre nous qui vivent à Goma ont déjà emprunté ces moyens de transport, n'est-ce pas? Tout le monde, n'est-ce pas? Ce que j'ai déjà remarqué avec les motards, c'est que leur indicateur de carburant, il est toujours presque à empty. Hein? C'est très à côté des vides, là. Les petits « et » là. C'est toujours presque vide. Et à chaque fois, tu es pressé d'aller au travail, tu prends une moto et puis le motard te dit « Ah, excuse-moi, il faut qu'on s'arrête un peu pour recharger et prendre un peu de carburant. » Et moi, ça me frustre beaucoup parce que je me dis « Mais je dois être au travail à temps et ce monsieur, il s'arrête encore. » Parce que ces gens, au fait, ils ont toujours l'habitude de rouler avec un réservoir qui est presque à sec. Presque à sec. Et malheureusement, c'est ça la réalité de beaucoup de chrétiens aussi. Beaucoup de chrétiens sont comme ces motards qui courent vers la station-service, courent vers ces gens ici qu'on appelle les Kadhafi, n'est-ce pas? Seulement quand le réservoir est presque à sec. Et c'est la même chose pour beaucoup de chrétiens et c'est très malheureux parce que beaucoup de chrétiens courent vers la prière seulement quand les choses vont mal. Seulement quand ils sont vraiment dans des situations tellement désespérées, c'est à ces moments-là qu'on court vers Dieu pour faire quoi? Pour prier, pour crier vers lui. Mais je veux vraiment que nous puissions changer notre perspective et notre compréhension de la prière cet après-midi. Amen. Parce que la prière n'est pas cette chose-là vers laquelle on court seulement quand notre réservoir est à sec. La prière n'est pas ce distributeur-là dans lequel on met sa carte pour avoir de l'argent. Non. La prière doit être un étang permanent et constant de notre vie en tant que disciple. De notre vie en tant que disciple. Pas quand notre réservoir est à sec. En tout cas, c'est très malheureux pour un disciple de Jésus de faire quoi? D'aller dans la vie avec un réservoir qui est presque à sec. Il y a une deuxième image que j'aimerais que les médias puissent nous montrer. C'est l'image d'un plongeur sous-marin. Quand j'ai regardé cette image, j'y ai réfléchi et j'ai compris que la prière est réellement quelque chose que nous devons un peu apparenter à cette image-là. Parce que quand on est sous l'eau, pour survivre, on a besoin de tous ces équipements-là. Pour survivre, on a besoin de son masque à oxygène. Pour survivre, on a besoin de cette bouteille-là d'oxygène en permanence. En permanence. Et je vous dis sincèrement, quand je navigue tous les troubles qu'il y a dans ce monde, quand je navigue tous les défis que nous pouvons traverser dans la vie, en tout cas, j'ai besoin de mon masque à oxygène en permanence. J'ai besoin de prier et de prier Dieu tout le temps et en tout temps. Parce que la Bible elle-même nous dit « prier sans cesse ». 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 dit « prier sans cesse ». Ça veut dire que nous traversons un monde qui a beaucoup de troubles. Jésus lui-même a été clair, il a dit dans ce monde, vous allez faire face à des troubles. Hein? Restez ferme, pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Mais comment est-ce qu'on reste ferme? On reste ferme quand on a son masque à oxygène en permanence. Prier sans cesse. Jésus était un homme de prière. La première église telle que nous la voyons était une église qui priait. Joshua nous a parlé la semaine passée de comment ils étaient en train de prier. Ils étaient dans un même lieu. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Au fait, derrière chaque percée, derrière chaque victoire, derrière chaque mouvement de Dieu dans cette église, il y avait des hommes et des femmes qui étaient en prière, permanemment. Vous pouvez les lire dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Nous pouvons lire. La Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, « Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. » Et à participer aux prières. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 24, même chose, même refrain qui revient. On dit, après avoir entendu ces récits, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et en conséquence, à cause des prières qu'ils faisaient à Dieu, le verset 31 nous dit, quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Cette assurance est venue d'un moment suffisant passé dans la prière. Parce que la prière n'est pas juste cette station-service dans laquelle on va courir quand notre réservoir est à sec, mais c'est un masque à oxygène dont nous avons besoin en permanence pour pouvoir naviguer tout ce que le monde peut nous lancer, mais aussi pour être efficace dans notre appel. En fait, la prière n'est pas transactionnelle, elle est relationnelle. Et c'est ça la misconception qu'on a beaucoup de fois. Parce qu'on pense que la prière, c'est quelque chose, quand on vient vers Dieu, on lui montre nos besoins, il répond, et après on oublie de prier, on arrête de prier. Mais j'aimerais qu'on change cette façon de voir la prière pour comprendre que la prière est d'abord relationnelle. C'est à la fois une manière de communiquer avec Dieu, mais aussi de communier avec Dieu. Communiquer avec Dieu, mais aussi de communier avec Dieu. Je suis en train de dire que la première église était une église qui priait. Derrière chaque percée, derrière chaque victoire, derrière chaque mouvement de Dieu, il y avait des hommes et des femmes qui priaient. Jésus était lui-même un homme de prière. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent combien Jésus priait. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 5 au verset 16. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 6 au verset 12. Vous pouvez lire dans Luc chapitre 9 au verset 18. Vous pouvez lire dans les livres de Marc comment Jésus s'est levé très tôt matin, allé dans un lieu désert et il priait. Il était tellement un homme de prière que quand ses disciples sont venus vers lui, la première chose qu'ils lui ont demandé de leur apprendre, ce n'était pas de parler en langue, ce n'était pas de prêcher, ce n'était pas d'accomplir des miracles, mais ils lui ont dit, apprends-nous à faire quoi ? À prier. Parce qu'ils ont compris que le secret derrière sa puissance, le secret derrière sa victoire et son efficacité dans le ministère, c'était quoi ? C'était sa vie de prière. C'était sa vie de prière. Et donc, il est important encore et encore que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Si on doit se rappeler de nous dans les jours à venir, il faut qu'on dise il y avait des hommes et des femmes de prière au sein de la jeunesse ou au sein même de cette paroisse. Amen. Mais comme je l'ai dit, nous ne voulons pas seulement prier. Nous voulons prier pour être exaucés. Nous voulons prier pour que le ciel nous réponde, pour que le ciel tire attention à nos prières. Mais avant que je ne nous donne certains obstacles qui nous empêchent, qui empêchent à Dieu d'exaucer nos prières, je vais quand même nous donner les obstacles contextuels qui font que beaucoup d'entre nous ne prient plus, qui font que beaucoup d'entre nous ne passent plus suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, l'une des questions les plus difficiles à laquelle les chrétiens ont du mal à répondre aujourd'hui, c'est « Comment va ta vie de prière ?» Pas quand nous sommes ici ensemble, en train de louer et de prier. Toi, personnellement, comment va ta vie de prière? Personne ne te dira, elle est au zénith. En tout cas, ma vie de prière, ça va vraiment, c'est lundi, mardi, jusqu'au dimanche. Au fait, le dimanche, il n'y a qu'à tout formalité, mais ni quoi, ni shaomba, c'est menot. Peu de personnes te diront ça. Peu de personnes te diront ça. Et pourquoi ça arrive comme ça? C'est parce qu'il y a des choses contextuelles qui font que nous ne passons pas suffisamment du temps dans la prière. La première chose que nous devons savoir, c'est que nous vivons dans une ère de distraction. Et les médias sociaux sont l'une des choses qui empêchent à beaucoup d'entre nous de passer suffisamment de temps dans la prière. Parce que quand on se réveille le matin, la première chose qu'on cherche, ce n'est pas la face de Dieu, mais on cherche les statuts et les posts qu'il y a sur Instagram. C'est ce qui est dommage. C'est devenu vraiment instinctif. On se réveille et au lieu de rechercher la face de Dieu, on va sur Instagram, on va sur TikTok, toutes sortes de distractions, de mails, WhatsApp, ainsi de suite. Ces choses-là nous empêchent de passer du temps dans la prière. Parce qu'à l'exemple de Jésus, le meilleur moment pour prier Dieu, c'est le matin. Jésus s'est levé très tôt matin et il allait prier parce que cette prière-là était en train de faire quoi? D'effrayer, d'apporter la faveur de Dieu sur toute la journée. Mais malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on n'a plus le temps de le faire à cause de quoi? À cause de la distraction actuelle. Il y a l'Internet, il y a la diffusion en continu de contenu. On a accès à beaucoup de contenu maintenant, des films, des séries et tout ça. Et on passe beaucoup de temps dans ces distractions qu'on n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps de se recharger. Et on se demande, mais pourquoi il n'y a pas de puissance dans notre ministère? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train d'expérimenter Dieu comme les autres sont en train de le faire? C'est parce que tu es en train de marcher dans la vie avec un réservoir qui est presque à sec. Alors que Dieu est disposé à nous répondre. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 que vous n'avez pas parce que vous ne faites pas quoi? Vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Dieu est disposé et prêt à écouter nos prières. Mais est-ce que nous demandons? Est-ce que nous passons suffisamment de temps en train de prier? Parce que Corneille, que nous venons de voir ici, on nous dit qu'il priait régulièrement. Dans d'autres versions, on dit constamment. Ce n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait pendant 5 minutes et aller dans ses activités de centurions ou quoi que ce soit. Non, c'était quelque chose qui était permanent. C'était un reflet constant et permanent de sa vie. Il y a quelque chose que j'ai lu il y a des années que j'aimerais partager avec vous. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça dit, lorsque nous sommes constamment en présence de Dieu, nous devenons profonds dans un monde superficiel. Nous devenons constants dans un monde changeant. Parce que le monde change. Mais si nous voulons garder notre constance, nous devons être des personnes de prière. Nous devenons confiants dans un monde craintif. Beaucoup de gens sont anxieux, ils ont beaucoup peur. Mais quand nous passons suffisamment de temps dans la prière, et nous allons les voir dans la suite, nous sommes des personnes qui demeurent confiants, peu importe confiante, peu importe les circonstances de la vie. Nous devenons spirituels dans un monde matériel. Pendant que tout le monde est en train de courir ici et là pour chercher à accumuler, nous avons une force en nous qui nous donne une richesse que ce monde ne pourra jamais donner à qui que ce soit. Devenons spirituels dans un monde matériel et nous devenons patients dans un monde instantané. Nous vivons dans un monde de l'instantané. Mais c'est quand nous passons suffisamment de temps dans la prière que nous devenons patients. Que Dieu nous donne cette force d'endurer et de continuer et d'attendre que ses promesses se réalisent dans nos vies en son temps. En son temps. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Autre défi qui fait que nous ne prions pas, ce sont les divertissements. Il y a beaucoup de divertissements. Il y a beaucoup de pollution sonore. Ça aussi, c'est un défi. Ces derniers temps, en fait, les études ont montré que le silence absolu est quelque chose qui est presque inexistant. Il y a du bruit partout. On n'a plus le temps de s'isoler sans qu'il y ait un petit bruit là qui va te distraire. Ça peut être une notification sur ton téléphone. Ça peut être quelqu'un qui crie à l'extérieur, un coup de feu. Il n'y a plus de temps vraiment. Il y a une pollution sonore qui nous empêche de nous concentrer dans la présence de Dieu. Et nous avons besoin pourtant de ce temps pour parler à notre Père. Autre chose, ce sont les obligations de la vie. Les gens sont devenus très occupés qui n'ont plus de temps pour Dieu. On est là en train de courir ici et là pour défendre, pour finir les mémoires, pour gagner ce contrat, pour répondre à cet appel-là du boss, ainsi de suite, qu'on n'a plus le temps de prier. Mais alors, je vais vous suggérer quelque chose qui pourrait nous aider tous. Parce qu'au fait, ce qui fait que beaucoup de gens ne prient pas, c'est parce qu'ils pensent que la prière, c'est quelque chose que tu ajoutes à toutes ces choses-là que je viens de citer. Ils pensent que la prière, c'est quelque chose de plus que tu dois encore ajouter à toutes ces obligations. Mais je vais vous suggérer un principe qui m'a beaucoup aidé et qui va vous aider aussi, c'est que pour pouvoir prier, nous devons penser soustraction et pas addition. Soustraction et pas addition. Ça veut dire que dans toutes ces choses qui t'occupent, toutes ces choses qui te prennent beaucoup de temps, regarde quelles sont les choses que je peux soustraire pour pouvoir prier. Est-ce que ce sont les films? Est-ce que ce sont les séries? Est-ce que c'est mon temps sur Instagram? Est-ce que c'est mon temps sur TikTok? Quelles sont les choses que je vais soustraire pour avoir une vie de prière qui est riche? Une vie de prière qui me construit et qui me fortifie et qui me propulse dans ma destinée avec Dieu. Dans ma destinée avec Dieu. Parce que c'est très important. Je suis en train de dire que la prière est d'abord relationnelle avant d'être transactionnelle. Imaginez que vous venez de courtiser une fille. Je parle maintenant avec vous. Vous venez de courtiser une fille, n'est-ce pas? Elle dit oui. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous arrêtez de lui parler? Vous commencez à avoir des rendez-vous, n'est-ce pas? Réguliers d'ailleurs, chaque semaine. Vous vous dites, en tout cas, chaque jeudi, il faut que nous nous qu'au bon pain, n'est-ce pas? Il faut qu'on se rencontre à Yake Nyumbani. Il faut qu'on se rencontre quelque part. Pourquoi vous faites ça? C'est pour enrichir cette relation, n'est-ce pas? C'est pour que cette relation-là soit entretenue. Il faut un moment spécial où vous deux, vous allez avoir du temps pour faire quoi? Pour causer, pour enrichir, pour planifier. C'est ça, c'est cette idée-là, c'est cette philosophie que j'aimerais que nous puissions avoir quand nous prions, quand nous pensons à la prière. Parce que si notre relation avec Dieu doit être entretenue, alors il lui faut ce temps-là. Il lui faut ce temps où nous devons aussi prendre et dire, en tout cas, ça y est, nous avons rendez-vous dans le monde. C'est une sortie avec Dieu. Amen. Nous devons le faire. Même si on nous dit de prier sans cesse, mais ce moment-là, il est très important. Le fait de lui avoir dit « je t'aime » ne suffit pas. Il faut aussi que tu l'amènes. Et même quand on est marié, c'est toujours important. C'est toujours important de l'amener. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup ici, des mariés. Très important. La prière est d'abord relationnelle avant d'être transactionnelle. D'abord. Alors, quels sont les obstacles, les choses qui font, qui empêchent à Dieu d'exaucer nos prières? Parce que nous ne voulons pas seulement prier, je répète encore, mais nous voulons prier pour être exaucés. Quelles sont les choses qui font que tu pries, mais tes prières sont bloquées quelque part? Il n'arrive pas. Les autres sont en train de dire, en tout cas, moi je rends grâce à Dieu parce que j'ai prié, il a fait ceci, il a fait cela. Mais toi tu dis, mais moi je prie, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Je vais nous donner quelques obstacles. Il y en a plusieurs. Cette liste n'est pas exhaustive, mais j'ai pensé qu'il est important qu'on puisse regarder à ceci. Le premier obstacle, c'est prier avec des mauvaises motivations. Prier avec des mauvaises motivations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de personnes qui prient juste pour donner l'impression d'être spirituel. Jésus en a même parlé dans les livres de Matthieu. Il y a des gens qui prient comme les pharisiens. Matthieu chapitre 6, verset 5. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. C'est déjà une mauvaise motivation. Tu pries juste pour que les gens disent, ah, en tout cas, les grands, anaombasan, ama ou les sœurs, anaombasan. Déjà, c'est une mauvaise motivation qui va bloquer tes prières. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Quel genre de récompense? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Une mauvaise motivation serait de prier juste pour être vu. Juste pour faire croire aux gens que nous sommes aussi des personnes de prière. C'est déjà quelque chose qui bloque l'exaucement de nos prières. Parce que la motivation, elle n'est pas bonne. Une autre mauvaise motivation, c'est de prier égoïstement. Il y a des personnes qui disent, ah, comment est-ce que les autres font pour prier pendant 2 heures, 3 heures? Seigneur, merci pour papa, merci pour maman, merci pour les frais scolaires. Et puis, je n'ai plus d'autres choses à dire. C'est parce qu'on prie égoïstement. On prie seulement pour soi-même, mais on ne pense pas aux autres. On prie seulement pour soi-même, mais on ne pense pas à l'avancement du royaume de Dieu. Parce que si tu regardes tous les problèmes qu'il y a autour de nous, en tout cas, on ne s'arrêterait pas de prier. On continuerait à prier encore et encore. Prier égoïstement est une mauvaise motivation. Prier seulement pour que nous soyons le centre de toutes les réponses de Dieu, c'est déjà une mauvaise motivation. C'est une mauvaise motivation. D'ailleurs, quand Jésus nous a appris à prier, il a dit « Notre Père ». Il n'a pas dit « Mon Père ». Quand vous allez prier, priez comment ? Notre Père, parce que c'est le Père de tous ceux qui ont crié. Ce n'est pas seulement ton Père à toi. Ça veut dire que même dans ta prière, il faut toujours que le nous soit plus grand que le moi. Il faut toujours que le nous soit plus grand que le moi. Priez égoïstement. Priez égoïstement. Deuxième chose qui fait que nos prières ne soient pas répondues. D'ailleurs, avant que même j'aille là-bas, lisons Jacques chapitre 4, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour l'employer à vos passions. Priez égoïstement. On a embarqué toujours Yako. Jour où on est calme. Juste toi, tu es le centre de ton petit monde. Mais Dieu nous a sauvés et l'amour qu'il a mis en nous, c'est un amour qui doit s'exprimer par les services aux autres et à lui. Priez égoïstement. Deuxième chose qui empêche à Dieu d'écouter et d'exaucer nos prières, c'est les péchés. Les péchés. Ésaïe chapitre 59, verset 1d dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de faire quoi ? De vous écouter. » Les péchés empêchent à Dieu de nous écouter. Je vais vous donner l'exemple simple des parents. Vous savez, quand on était enfant, on était très enfants, très gosses, on aimait beaucoup jouer dans la poussière, tu joues dans la boue, beaucoup de choses, et puis tes mains sont sales, tu es sale. Et puis ton père revient du travail avec, par exemple, du pain, hein, des beignets, des bonnes choses, quoi. Et quand tu vois papa revenir, tu dis, waouh, papa, est-ce que je peux avoir l'un de ces beignets? Mais quand il va regarder ta main, combien elle est sale, qu'est-ce qu'il va te demander de faire d'abord? Il va te demander de laver ta main. Parce que c'est comme ça que les péchés fonctionnent, au fait. Dieu a tellement de bonnes choses qu'il a en réserve pour nous. Il a tellement de bonnes choses qu'il veut accomplir dans notre vie. Mais il faut que nos mains soient propres. Pour que nous puissions les étendre, qu'il ait le plaisir de faire quoi? De nous donner toutes ces bonnes choses qu'il a pour nous. Le péché est un blocage à nos prières. Le péché est un blocage à nos prières. Une troisième chose qui empêche à Dieu d'écouter les prières ou de les exaucer, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est simplement avoir quelque chose ou quelqu'un qui a déjà pris la place de Dieu dans notre vie. Quelque chose ou quelqu'un qui a déjà pris la place de Dieu dans notre vie. C'est tourner vers quelque chose autre que Dieu. C'est comme un enfant qui a déjà refusé son papa et qui continue à lui demander des frais scolaires. Ou chaque kimbi à moi, nous, ou chassement, en tout cas, ou le haïko babang. Mais tu veux encore lui demander quoi, des frais académiques et tout ça. Il y a une parole dans Ézéchiel chapitre 14 que j'aimerais vous lire. Et j'ai toujours regardé cette parole et je me dis, waouh, il y a un côté gangster dans ce que Dieu a fait ici. Vous savez, quand je repense à mon père, des fois je me dis, il avait un côté gangsta. Parce que quand tu faisais quelque chose, tu as fait beaucoup de bêtises et tout ça, tu as peur d'aller vers lui directement. Tu passes par maman. Tu dis, en tout cas, maman, j'ai besoin de ça et ça. Et toi-même, tu sais que tu as déjà commis beaucoup de bêtises et tu as peur d'aller directement à ton papa. Alors, tu passes par maman. Et tu sais ce que papa faisait? Il disait à maman, non, laisse-le venir me voir lui-même. Il n'a pas besoin de passer par toi. Pourquoi? Parce qu'il voulait, c'était son côté gangsta, quoi. Il voulait d'abord s'occuper de cette idiotie qu'il avait dans la tête avant de te donner ce dont il avait besoin. Et c'est la même chose que je vois avec Dieu dans cette parole ici. Ézéchiel chapitre 14, verset 1. Il dit, « Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les serais-je consulté par eux? Mais les serais-je consulté par eux? Ils ont d'autres priorités que moi. Ils ne me considèrent plus comme leur Dieu. Est-ce que je vais me laisser consulter par eux? » En fait, ces gens étaient en train de passer par le prophète Ézéchiel. Je vais vous lire la suite de ces mêmes passages, c'est très intéressant vraiment. Finalement, Dieu a dit, « Ok, laisse-les venir. Moi-même, je vais leur répondre. Laisse-les venir vers moi. » Et vous savez ce que je vais faire? En tout cas, je vais les exposer, je vais exposer leur idolâtrie et je vais les purifier de cette idolâtrie. En tout termes, avant de faire quoi? Avant de répondre aux prières qu'ils sont en train de te présenter. Ça, ce sont des choses qui font que Dieu, des fois, n'exauce pas nos prières. Parce que la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous feront quoi? Vous serez donné en plus. Et notre psaume dit que fais de l'éternel tes délices et il fera quoi? Il t'accordera les désirs de ton cœur. C'est une question de priorité, au fait. À partir du moment où nous avons d'autres priorités que Dieu dans notre vie, à partir du moment où nous avons fait place à quelqu'un ou à quelque autre chose que Dieu dans notre vie, au fait, ça devient un blocage à nos prières. Ça devient un blocage à l'exaucement de nos prières. Quatrième chose, c'est ce que j'ai appelé le désalignement. Le désalignement ou bien une divergence. Il y a une divergence entre toi, tes priorités et les priorités de Dieu. Parce que la prière, au fait, c'est un mot grec que j'ai vu dans la Bible, un mot grec qu'on dit, je ne sais pas si je vais le prononcer bien, mais c'est prosyukomai. Ok? Ça veut dire avancer pour échanger des souhaits ou des vœux. Avancer pour faire quoi? Pour échanger des vœux ou des souhaits. Dieu a des souhaits et des vœux pour votre vie. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Nous avons aussi des choses que nous voulons voir, que nous voulons voir Dieu accomplir dans nos vies. Et donc, dans la prière, en fait, c'est cet échange. On avance vers Dieu, on lui dit, « Seigneur, voici les choses que je veux que tu puisses accomplir dans ma vie. Voici les choses que je suis en train de prier. Je veux te voir vraiment encore une fois. Je veux voir ta main agir ici. » Mais Dieu a aussi une volonté. Elle est dans sa parole, elle est claire. Et il te présente aussi sa parole. C'est la prière que Jésus était en train de faire dans Luc chapitre 22, verset 42, où il dit, « Seigneur, si cette coupe pouvait être éloignée de moi, mais non pas quoi? Ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Avancer pour faire quoi? Pour échanger des vœux. Parce que dans la prière, nous devons arriver à ce moment-là d'alignement où ce que nous désirons s'aligne avec ce que la volonté de Dieu veut pour nos vies. Il faut qu'il y ait un alignement avec ce que nous désirons et la volonté de Dieu pour nos vies, pour que l'exaucement soit effectif. Pour que l'exaucement soit effectif. Et c'est pour ça que j'ai dit que la prière est une forme d'abandon joyeux. Où tu viens et tu t'abandonnes. Tu dis, voilà Seigneur, je décharge mes fardeaux. Je sais que tu dois avoir aussi des choses. Tu as des choses que tu veux accomplir dans ma vie. C'est pourquoi je viens, je te le dis, mais je suis aussi ouvert à ce que toi tu vas accomplir. Je suis aussi ouvert à ce que toi tu vas faire. La prière concerne autant ce que nous obtenons que ce dont nous nous débarrassons. En fait, il y a des personnes qui pensent que prier, c'est seulement demander et attendre que Dieu donne. Mais aussi, dans ces moments de la prière, c'est un moment où Dieu aussi nous débarrasse de beaucoup de choses Il nous débarrasse de la colère, il nous débarrasse de la peur, il nous débarrasse de l'anxiété, de la honte, de la tristesse, de l'amertume, de la jalousie, des addictions. C'est dans ces moments de prière que beaucoup sont libérés de certaines addictions parce qu'ils passent suffisamment de temps dans la présence de Dieu qu'il leur donne des muscles pour dire non à toutes sortes de choses. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. En fait, cette parole-là, dans Luc chapitre 2, verset 42, j'aimerais qu'on la lise parce que c'est très important de comprendre ces points d'alignement. Jésus est en train de prier parce que dans sa chair d'homme, il regarde un peu le poids de la souffrance qu'il est sur le point de subir et il se dit, en tout cas, it's too much, c'est trop. Et il vient vers son Père, le Père Céleste, et il lui dit, je vais lire, Luc chapitre 22, verset 42, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. Et la Bible nous dit au verset 43, alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Les plans de Dieu ne pouvaient pas changer. Dieu avait déjà planifié que Christ mourrait sur la croix pour sauver l'humanité. Et Christ, dans son état d'homme, il regarde un peu la souffrance qu'il va traverser. Il s'est dit, waouh, c'est trop lourd. Il vient vers le Père, il dit, si ça pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Dieu n'a pas changé son plan, n'est-ce pas? Christ devait souffrir, Dieu ne l'a pas épargné de cette souffrance. Mais avant cette souffrance, Dieu a fait quoi? Il l'a fortifié. C'est cet ange-là que Dieu a envoyé. Parce qu'à ce moment, ce dont Christ avait le plus besoin, c'était quoi? C'était d'être encouragé, c'était d'être fortifié pour la tâche qu'il avait à faire. C'est pour ça que je suis en train de dire que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne toujours ce dont nous avons besoin. À ce moment, Christ, le Seigneur, avait beaucoup besoin d'être fortifié. Il avait plus besoin d'être fortifié. Le but de la prière n'est pas de maîtriser les circonstances. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que quand je vais aller prier, alors j'ai contrôle sur tout ce qui va se passer, sur les résultats peut-être de mes prières. Le but de la prière n'est pas de maîtriser les circonstances de votre vie, mais d'être maîtrisé. On peut projeter ça. Le but de la prière n'est pas de contrôler, mais de lâcher les contrôles. C'est un état de joyeux abandon, c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes enveloppés sous l'entrain du Dieu Tout-Puissant parce que croire en lui peut aussi signifier se détendre en lui. En fait, croire en Dieu, c'est relaxer en Dieu. C'est se tenir tranquille et savoir qu'il est Dieu. Quand tu viens de ce moment de prière, ça ne veut pas dire que réellement tu as contrôle sur tout, mais que Dieu lui-même est au contrôle et il va agir. Il va faire. J'aime beaucoup cette parole d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. Elle dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance que sera votre force. Et donc l'alignement. Nous devons prier de manière à ce qu'à un moment, pendant que nous passons suffisamment du temps dans la prière, ce que nous souhaitons et la volonté de Dieu s'aligne. Et là, vous verrez exaucement sur exaucement. Exaucement sur exaucement. Parce que plus nous passons du temps dans la parole de Dieu, plus nous passons du temps dans la prière, nos priorités et ses priorités s'alignent. Les désirs qu'il a pour le monde et les désirs que nous voulons aussi avoir pour le monde vont s'aligner. Il va conformer notre pensée, notre intelligence à ce qu'il veut aussi accomplir dans ce monde. Et c'est là que tu vois des personnes qui marchent, ils demandent à Dieu quelque chose. Et ça arrive, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de marcher dans la volonté de Dieu, encore et encore. C'est ça, cet alignement-là dont je suis en train de parler. Amen. Autre obstacle, cinquième, qui empêchent à Dieu, ou bien qui font comme un obstacle entre l'exaucement de nos prières, qui sont obstacles à l'exaucement de nos prières, numéro 5, c'est l'avarice dans nos dons et l'injustice. Nous venons de lire l'histoire de Corneille. On ne nous décrit pas Corneille comme étant une personne qui priait seulement. La Bible dit dans Actes chapitre 10, au deuxième verset, « Cet homme était pieux. » Et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Corneille n'était pas seulement un homme de prière, c'était aussi un homme généreux. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Vous savez quoi? Quand j'ai lu ce verset, j'ai compris un très grand principe et qui est vrai, prouvé, je l'ai déjà vu encore et encore dans ma vie. C'est qu'à chaque fois que tu donnes, c'est ce que Dieu est en train de dire ici, si tu donnes dans un petit gobelet comme ça, c'est ça la provision que tu es en train de constituer pour ce qu'on te donnera aussi. Parce que quand tu donnes dans un grand gobelet comme ça, ça veut dire que tu es aussi en train de te préparer à faire quoi? À recevoir dans un grand gobelet. C'est un peu ce que ce verset est en train de dire. Au fait, quand vous donnez, quand vous êtes généreux, quand vous aidez les gens, quand vous servez, vous êtes en train de vous constituer une armée d'intercesseurs. Des personnes qui seront toujours en train de dire, en tout cas, Oulé Ndeleku Barikio. Que Dieu puisse répondre aux prières de cette personne, de cette femme, de cet homme. Que Dieu puisse continuer à lui donner encore et encore. Parce que la prière et la générosité vont ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Proverbe chapitre 21, verset 13 dit, « Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. » Le manque de générosité, l'avarice, est un blocage à l'exaucement des prières. C'est un blocage à l'exaucement des prières. Je répète encore une fois cette parole de Luc. Il dit, « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc si tu donnes avec « kakopo kapataivi », il est une provision et nous avons préparé. C'est ça que tu prépares pour qu'on puisse aussi te donner. Quand on va te déverser comme ça, on va te donner dans ce petit verre-là. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? On est en train de se comprendre. La générosité et la prière vont ensemble. Ensemble. Et à chaque fois que je vous donne, à chaque fois que vous êtes en train de servir les gens, je le répète et je le dis encore, vous êtes en train de vous constituer une armée d'intercesseurs. Des personnes qui voudront toujours vous voir réussir. Parce qu'ils savent que plus Dieu vous bénit, ils sont aussi bénis. Ils sont aussi bénis à travers vous. Ésaïe chapitre 58 aussi parle de l'injustice. Il parle de quel est le vrai jeûne. On va lire très rapidement. Ésaïe 58. La Bible dit, « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son du cor que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournés vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait un peuple qui agit comme il le faut et qui n'abandonne pas les droits proclamés par son Dieu. Ils réclament de moi des justes jugements et désirent ma présence. » C'est ce qu'on veut dans la prière. « Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer les jeûnes si tu ne vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne les remarques pas? Alors je réponds, constatez-les vous-même. Gêner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire et de malmener vos employés. » Ça veut dire de faire de l'injustice. « Ni de vous quereller et de donner des coups de poing. Quand vous gênez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. » L'injustice, la manière dont on traite les personnes qui sont autour de nous, peut être un blocage à nos prières. Ça peut être soit une voie à travers laquelle Dieu va nous exaucer, soit un blocage à nos prières. Et je vous l'ai dit, tout ce qu'on fait revient toujours vers nous d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Je vous l'ai dit, servez, soyez généreux. Autant que vous priez, rassurez-vous aussi que vous êtes en train de servir et d'être généreux. Parce qu'on donne à celui qui donne. On donne à celui qui donne. Dernier obstacle. Avant-dernière, mais celui-là, je vais le sauter. On peut passer au septième. J'ai dit une mauvaise idée de Dieu. Une mauvaise idée de Dieu. Une mauvaise connaissance de Dieu. En fait, vous devez savoir que ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu va affermir ou affaiblir votre vie de prière. Ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu va affermir ou affaiblir votre vie de prière. Je vais vous donner un exemple simple. Je m'excuse, je vais utiliser par exemple l'exemple de notre pasteur. Nous, quand nous approchons le pasteur, nous l'appelons révérend, n'est-ce pas? Bonjour révérend, j'ai besoin de ça. Ce n'est pas la même manière dont son fils l'approche. Quand son fils vient vers lui, il ne vient pas de manière formelle, non, il vient vers qui? Vers son papa. Il ne l'appelle pas révérend, quand il arrive à la maison, Moïse qui est là, il n'appelle pas pasteur révérend. Non, il l'appelle papa. Vous comprenez? Parce que la façon, la perception que vous avez de Dieu va affermir ou affaiblir votre vie de prière. Et Jésus, quand il est venu, il a inauguré un nouvel ère. Parce qu'avant lui, avant Christ, personne n'appelait Dieu Père. Personne ne pouvait crier vers Dieu et dire « Abba, Père ». Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. Et c'est pour ça que je suis en train de dire maintenant, c'est un appel que je fais à chacun d'entre nous. Et je pense que c'est ce qui avait même changé la façon de prier de Corneille. Bien que Dieu soit le créateur de tous, il n'est que le Père de certains. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas confiantes quand elles viennent vers Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas encore passées par cette adoption que le Christ nous donne. Afin que nous puissions venir vers Dieu, pas avec beaucoup de révérences, zavoga, non. Nous venons vers notre Père, Abba, Daddy, Papa. Une mauvaise idée de Dieu. Ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Dieu va affermir ou affaiblir votre vie de prière. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. En son nom, ça veut dire selon sa nature, selon les choses qui sont conformes à cette nature. Mais on ne peut pas demander en son nom si on n'a jamais crié à son nom-là. On ne peut pas demander à son nom si on n'a jamais crié à son nom. Parce que quand on a crié à son nom-là, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié à son nom, il a donné le droit de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et c'est alors que tu peux venir vers Dieu avec confiance et dire « Notre Père, mon Père, Abba, Papa, Daddy. » C'est un appel à quelqu'un ici qui n'a jamais crié à ce nom. Si tu veux passer à une autre dimension de ta prière et venir vers Dieu avec confiance, il faut croire à ce nom qui te donne accès, accès total à ce Père-là. Il ne sera plus un Dieu qui est très distant, mais il sera ton Père avec qui tu pourras converser partout et en tout temps. Au fait, Dieu est celui à qui on peut interrompre. Vous savez, nos pères, des fois, ils sont occupés parce qu'ils sont en réunion et tout ça. Mais vous devez savoir qu'avec ces pères-là, vous pouvez interrompre ces réunions à tout moment. Il sera toujours prêt à vous répondre, à condition que vous ayez écrit à ce nom-là, le nom de Jésus qui vous donne accès total au Père. Amen. C'est un appel que je suis en train de lancer à quelqu'un aujourd'hui. Si tu n'as jamais crié à Christ comme ton Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, il va te donner accès à quoi? À l'axe total au Père. Et tes prières vont passer d'une dimension à une autre. Parce que quand tu demandes des choses en son nom, il va les faire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire ça aujourd'hui. D'ouvrir les yeux à quelqu'un afin que sa vie de prière passe d'une prière qui n'est jamais exaucée à une prière qui est exaucée parce qu'il est en train de prier au nom de Christ. Le nom qui donne accès au Père, le nom qui nous donne accès total à la personne de Dieu. Amen. Cette saison, il y a un cantique qui est en train de me bénir énormément. J'aimerais qu'on le chante ensemble. J'espère que vous le connaissez. Ça dit, les cieux s'ouvrent, les anges montent, descendent, les fils de l'homme étant ces lieux. Nos cœurs disposés, parfum déversé, nos âmes assoiffées s'attendent à toi. Yeshua, ah, Yeshua, Mashiach. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. si tu es là et tu n'as jamais crié en ce nom qui te donne accès à Dieu, un accès total à Dieu, ici et maintenant, Dieu peut le faire. Dieu peut te donner accès à Dieu. Tu peux croire aujourd'hui en ce Jésus parce qu'il a les bras ouverts pour t'accueillir dans sa présence et te donner accès total au Père. Si tu es là aujourd'hui, Dieu a besoin de te voir répondre à cet appel. Ici et maintenant,
ça se passe maintenant.
Ça se passe maintenant.
Ici et maintenant.
Ici et maintenant. Touché. Nous allons prier pour quelques personnes. Nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas encore accès au Père. Pour ces personnes qui n'ont pas encore crié au nom de Jésus. Peut-être que tu es là et tu n'as jamais crié en Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, ici et maintenant, cette invitation est tendue vers toi. Et si tu es là, nous allons te demander humblement de lever ta main et de dire, Seigneur, ici et maintenant, je vais être touché par toi. Je vais avoir accès au Père. Si tu es là, c'est un appel pour toi. Aujourd'hui, nous voulons prier avec toi et demander à Dieu de t'aider. Afin que toi aussi, tu puisses avoir des prières que Dieu va exaucer et que tu puisses être bénéficiaire des grâces et de l'accès total que nous avons au Père. Oui, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est là et qui veut dire, oui, Seigneur, je vais avoir cet accès total au Père, je vais voir mes prières être exaucées, elle va lever sa main et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, à être en communion totale avec toi. Nous voulons également prier pour toutes ces personnes qui ont eu d'autres priorités dans leur vie que Dieu. C'est vrai que tu viens à l'église, mais tu n'es pas totalement dévoué à Dieu. La Bible nous dit que Corneille était un homme pieux. Dans d'autres versions, on dit qu'il était dévoué. Ça veut dire qu'il n'était pas ni chaud ni froid. Il était totalement dévoué à Dieu. Il s'était déjà totalement donné au service à Dieu. Et ses prières n'avaient aucun obstacle lié au fait qu'il avait de doubles standards. Non, il était totalement dedans. Il était dans la volonté de Dieu. Il était en train de chercher d'abord le royaume des cieux. Et Dieu l'a amené d'une dimension à des relations à une autre. Et si tu es là cet après-midi et tu es dans ce double standard, cette vie de double standard, où ta vie chrétienne c'est seulement une vie de dimanche, nous voulons prier pour toi. Nous voulons demander à Dieu de te donner la capacité et la force de les servir complètement, sans double standard, complètement, et de ne pas avoir d'autres priorités que lui, afin que sa volonté s'accomplisse dans sa vie. Oh, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, oh, ça se passe maintenant. Et si tu es là et cette prière te concerne, tu vas également demander à Dieu de t'aider enfin, que tu puisses être totalement dévoué à lui.
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, ça se passe maintenant.
Nous voulons également prier pour ceux qui sont encore dans toutes sortes de formes d'addiction, de distraction, qui les empêchent de prier Dieu. Peut-être que pour toi, ce sont les réseaux sociaux. Peut-être que pour quelqu'un d'autre ici, ce sont les films, les séries, toutes sortes de distractions. Peut-être que c'est une relation qui t'empêche d'être totalement dévoué à Dieu. Nous voulons demander à Dieu de t'aider afin que tes prières soient riches, afin que ta vie de prière et ta communion avec Dieu puissent t'aider à être fortifié, à construire cette force de l'intérieur qui va te permettre d'être efficace dans ton appel. Et si tu es là, nous voulons demander à Dieu de t'aider. Prie, demande à Dieu de te débarrasser de ces choses qui t'empêchent d'avoir du temps avec lui. Demande à Dieu de t'éloigner toute forme de distraction de ta vie, afin que tu puisses être un homme ou une femme de prière. Ici et maintenant, il va les faire. Amen. Oh, 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 ici et maintenant, ça se passe maintenant. Je prie. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, oh, 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 ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oui, Seigneur, nous te disons merci parce que tu as entendu les prières de tes enfants. Et nous croyons, Seigneur, qu'à partir de ce moment, ici et maintenant, notre vie de prière sera riche. Nous allons voir, Seigneur, ta main agissant dans nos vies, Seigneur. Père éternel, si l'un de ces obstacles que nous venons de citer concerne quelqu'un ici, Seigneur, nous prions qu'au nom de Jésus, Seigneur, qu'il soit éloigné de nous, enfin, que l'exaucement soit notre partage. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.